L'histoire commence une nuit de janvier 2012. Le Costa Concordia passe trop près de l'île de Giglio et il tape le fond. La coque est percée sur 60 mètres, il y a des inondations plein le bateau. Le capitaine prend son micro. Mesdames, messieurs, nous avons une petite panne mineure. Rassurez-vous, tout est sous contrôle.
Une semaine après le naufrage en Italie du Costa Concordia.
Confusion sur le nombre de disparus.
Voici l'un des hommes les plus détestés d'Italie.
Une bombe écologique sommeille dans les entrailles du Costa Concordia.
Il n'y a sans doute plus d'espoir.
Aujourd'hui, je vais vous raconter l'incroyable histoire du Costa Concordia. C'est un remake moderne du Titanic, un enchaînement de petites erreurs du style confondre sa droite et sa gauche. Vraiment. C'est surtout la lâcheté d'un homme qui a coulé le bateau tout droit à la catastrophe. Cet homme, c'est le capitaine Chettino, alias l'homme le plus détesté d'Italie. Comment on passe de capitaine d'un bateau de prestige à plus grosse honte du pays? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, et ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo. Donc je vous disais, on est en plein mois de janvier, la foule monte à bord du Costa Concordia, on est le jour du départ. Les vacanciers attendent ça depuis des mois, certains sont en voyage de noces, d'autres viennent se reposer après les fêtes de Noël. Le Costa Concordia part pour une croisière de 7 jours en Méditerranée. Il fait beau, sur le pont on admire les mouettes, tout le monde a le sourire aux lèvres, du vent plein les cheveux, tout va bien, enfin. Jusqu'ici, tout va bien. Et ça va pas durer, on est 2 jours avant l'accident sur le Costa Concordia. Ce paquebot, c'est la fierté de Costa Croisière. C'est une boîte qui a été créée en 1800, ça date, et c'est une entreprise qui est basée à Gênes, en Italie. Et si vous avez bien suivi l'épisode précédent, c'est là que Christophe Colomb est né. À l'époque, leur business, c'est le transport de marchandises aux quatre coins du globe, et dans les années 50, ils commencent à se dire, bon, le commerce c'est bien, mais l'avenir c'est la croisière. Du coup, ils se lancent là-dedans, rapidement la boîte grandit, 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 et en quelques années, Costa, ça devient l'entreprise majeure dans le milieu. Bravo à eux. Dans les années 2000, ils ont déjà une flotte de bateaux gigantesque, mais dans le business de la croisière, c'est celui qui a le plus gros bateau qui domine. Ouais, à l'époque, c'est vachement à la mode ce genre de vacances, et la concurrence entre les compagnies est super agressive. Et donc pour rester dans le game, il n'y a pas 36 manières, ils sortent le chéquier et commandent un nouveau monstre. Et quelques temps plus tard, le chantier est terminé et on met à l'eau ce géant des mers. Alors, je dis géant des mers, mais j'aurais très bien pu dire immeuble flottant. Le Costa Concordia se dévoile au grand public, c'est un paquebot de 114 000 tonnes. Alors 114 000, pas facile de se rendre compte. Vous voyez la tour Eiffel? Vous voyez le poids de la tour Eiffel? Bon, j'avoue moi non plus. Enfin bref, ce bateau, il pèse autant que 10 tours Eiffel. 13 étages, 300 mètres de long, il faut faire une rando de 10 minutes pour le traverser, et tout ça pour une petite poignée de dollars, 570 millions exactement. On continue? 3000 passagers, 1000 membres d'équipage, et petite touche finale de démesure, une piscine avec écran géant, parce que pourquoi pas, un spa, 5 restaurants, 13 bars, et tout ça, ça file à 22 nœuds sur l'eau. Ouais, on a une ville flottante qui navigue à 40 km/h. À cette vitesse-là, il faut des kilomètres pour l'arrêter tellement il est lourd. Bon alors, ce genre de vacances, c'était pas du tout mon truc, mais bon, vous avez compris, vacances hors normes, bateaux hors normes, et l'animateur des vacances, c'est notre capitaine Francesco Chettino, et niveau souvenirs, il va pas les décevoir. Chettino, c'est pas un lapin du jour, il connaît très bien la boîte parce qu'il travaille pour Costa Concordia depuis 2002 et il connaît aussi très bien le bateau qui a été inauguré en 2006. Donc depuis 6 ans, il a eu le temps d'acquérir une bonne expérience en naviguant dessus, il s'est fait la main en naviguant majoritairement sous le soleil de Méditerranée et jusque-là, il offre des vacances de rêve. Enfin, il offre. Ça peut quand même monter à 10 000 euros la semaine cette histoire. Bref, des centaines de milliers de passagers ont passé des vacances tranquilles sur ce bateau. Tout va pour le mieux jusqu'à ce que cette nuit de janvier 2012 tourne au cauchemar. Mais pour le moment, tout va bien. Après une escale en Sicile, le bateau prend la mer pour Civitavecchia, en Italie. On est vendredi 13 janvier. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, ce jour-là, on a un très beau combo, un 13 et un vendredi. Et quand vous allez voir l'immensité du drame, vous allez comprendre que la superstition est largement justifiée. Mais pour le moment, tout va bien. Petit coucher de soleil, paysage resplendissant, ciel rouge feu, le Costa Concordia, appareil pour Savone. Le parcours est supposé passer entre le continent italien et l'île de Giglio, sauf que, bah ouais, faut bien, hein, sauf que, sinon il n'y aurait rien à raconter, Ils vont effectuer un tout petit détour de rien du tout et amener le Costa Concordia près de l'île pour faire un Inchino. Alors, c'est quoi un Inchino? C'est un passage près de la côte pour saluer les habitants de l'île, ou leur en mettre plein la vue avec un paquebot géant, je vous laisse interpréter ça comme vous voulez. Et en soi, c'est complètement interdit, c'est une entorse aux règles de navigation, mais bon, une petite exception pour faire le bonheur des touristes et des insulaires est toujours bienvenue. Et je vous le rappelle, on parle de faire joujou avec un énorme bateau qui vaut des centaines de millions, 3200 passagers, 1000 membres d'équipage. Cela dit, jusqu'ici tout va bien, le spectacle a son petit succès, et tout le monde admire la beauté de l'île, petit four dans une main, coupe de champagne dans l'autre, l'apéro se passe bien, mais le dîner va être agité. La nuit commence à tomber, et depuis l'île on voit cette masse énorme se déplacer sur l'eau, les lumières du bateau se réfléchissent sur la mer, et depuis la passerelle, là où on pilote le navire, les officiers dirigent le bateau pendant que le capitaine Chetino dîne. Alors ce dîner, vous pouvez le mettre dans la liste des fautes professionnelles de Chetino. En soi, il a le droit de dîner. Il a le droit de quitter son poste pour dîner. Ça, c'est pas le problème. Mais ce soir-là, il dîne... Il dîne en bonne compagnie. Gardez ça dans un petit coin de la tête, ça a son importance pour la suite. Les officiers sur la passerelle ont pour ordre de passer à 1500 pieds des côtes, et malgré la déviation de la route officielle, c'est supposé être une distance suffisante. En tout cas, jusque-là, c'est une distance suffisante de sécurité. 21h40, le Costa Concordia navigue à 15 nœuds, ça fait à peu près 30 km/h. Chetino revient sur la passerelle, accompagné de sa dame. Il veut être là pour la manœuvre d'évitement de l'île. Mais, et là, gros mais, grosso modo, il y a un écart de cap qui va avoir quelques petites conséquences sur l'ambiance de fin de soirée. Au lieu de rester à distance de l'île, le Concordia s'en rapproche dangereusement. Et je vous redonne du contexte, c'est pas un jet ski ce bateau. Vu la taille de l'immeuble flottant, on corrige pas sa trajectoire comme ça. Et encore moins quand on se gourre pour la corriger, parce qu'en fait, Chetino s'aperçoit de l'écart de trajectoire, ça va, il a pas trop bu au dîner, et il ordonne tout de suite de la corriger vers la droite. Du coup, l'officier à la barre, évidemment, il vire à gauche. C'est vraiment arrivé, la situation est critique, il se gourre de direction. Il va s'en apercevoir assez vite, corriger tout de suite son erreur, mais le bateau est lourd, il a une énorme inertie, il pèse des centaines de milliers de tonnes. Mais les lois de la physique étant ce qu'elles sont, ça commence à partir en vrillé. Le bateau tape les rochers, bam, trou dans la coque, une grosse brèche de 60 mètres de long, ça perce complètement les compartiments étanches, l'eau rentre, ça s'annonce mal pour la suite des vacances. Panique des passagers au moment du choc, ça crie partout, ceux qui étaient à l'intérieur se précipitent dehors pour voir ce qui se passe, mais en dehors du bateau, il fait nuit noire, on voit vaguement la houle dans la pénombre. Au bout de quelques minutes, la salle des générateurs électriques est inondée, le débit est incontrôlable, tout saute, plus de courant, plus de lumière, l'obscurité absolue. La panique monte d'un cran, tout le bateau est dans le noir, la foule court, personne ne voit rien à 3 mètres. C'est l'angoisse, et quelques minutes plus tard, plus de moteur. La propulsion du bateau est HS. Il se retrouve échoué comme une baleine sur la plage, impossible de s'en tirer tout seul. Mais heureusement, on a des groupes électrogènes de secours, ils sont au sec, et les mécaniciens du bord arrivent à les remettre en marche, la lumière revient, et le calme des passagers avec. Temporairement. Temporairement, parce qu'une brèche de 60 mètres, ça se bouge pas avec du scotch, et l'eau continue à rentrer dans un débit de folie, le bateau prend la flotte, impossible à maîtriser. Du coup, ça pose encore plus de problèmes électriques, et puis toute cette eau qui rentre, c'est lourd quoi. Donc le bateau commence doucement à prendre de l'angle, côté passager, on se pose quand même 2-3 questions, la tension monte, que s'est-il passé? Est-ce qu'on flotte encore? Est-ce qu'on va mourir? Du coup, notre ami Chetino prend son micro, et il va rassurer tout le monde. Désolé pour ce petit poc sur la coque, rassurez-vous, on redémarre les moteurs et on repart. Quelques minutes plus tard, le port de l'île contacte le Costa Concordia. Tout va bien les gars? On vous voit plus bouger et puis vous avez pas de lumière. Chetino répond que tout va bien, petit problème de fusible, ce sera vite réglé. Et pendant ce temps-là, vase communicant, l'eau rentre en masse et ça continue à pencher. Le chef ingénieur monte à la passerelle, faire le bilan, il est en panique, il arrive essoufflé, c'est pire que ce qu'il pensait. En fait, à chaque fois qu'il descend, il se dit « Tiens, une nouvelle situation un peu chiante, elle était pas là il y a 3 minutes. » Depuis le début, c'est ça. Réaction en chaîne sur réaction en chaîne. Une minute avant, 3 compartiments étanches pleins d'eau, il y retourne, il y en a 7. Et sur le pont, on voit les passagers angoissés commencer à courir vers les bateaux de sauvetage. L'excuse de la coupure de courant, ils ont flairé le mytho. Bon alors là, il faut quand même féliciter Chetino, qui, même s'il a beaucoup trop d'ego, a eu un bon réflexe. Il a pris une décision déterminante pour la survie des passagers. Enfin. Malheureusement, pour la survie de presque tous les passagers. Et ça, on en reparle plus tard. Chetino, après le choc, il a pris la décision de tourner le bateau en direction de l'île. On peut se dire que c'est un peu contre-intuitif, ça va percer la coque encore plus, mais son idée, c'est de poser le bateau sur le fond. Plutôt que de rester au large et le couler complètement, c'est plutôt smart. Mais poser le bateau sur le fond, c'est malin, sauf que vu la situation, ce qui serait vraiment intelligent, c'est d'appeler à l'aide. Les générateurs de secours pompent l'eau vers l'extérieur, mais ce qui sort d'un côté rentre par un autre, et du coup, ça penche, ça penche, ça penche, et de plus en plus. Sauf que chez Tino, il pense à sa carrière, ou alors il veut pas se taper la honte devant la dame qu'il a infiltrée sur le bateau. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais non seulement il prend du bon temps avec sa dame sur ses horaires de boulot, mais en plus elle est pas sur la liste des passagers. Il l'a fait rentrer en douce par la porte de derrière, juste avant de partir. Bon, en même temps, sur un bateau de 4000 personnes, un passager de plus, un passager de moins, ça saute pas tout de suite aux yeux. Bref, à ce stade, le bateau prend de plus en plus d'angle, mais chez Tino, il a sa réputation à sauver, donc on appelle personne à l'aide. Sur la passerelle, c'est le déni total. Par contre, côté passager, l'angoisse est passée au stade hors de contrôle. Après s'être rapproché des canots de sauvetage, les passagers commencent à monter dedans, d'eux-mêmes, par instinct de survie. Alors je vous laisse imaginer, 4000 personnes en panique qui affluent vers les canots commencent à sauter dedans de manière complètement désorganisée. Et petit aparté, pendant l'enquête qui suivra le drame, on s'est aperçu que certains hommes ont abusé de leur force et littéralement piétiné l'adage, les femmes et les enfants d'abord. Ils ont éjecté des passagères et des gamins pour prendre leur place dans les canots et sauver leur peau. Ouais, c'est moche. On revient dans l'action, c'est la panique à bord, le bateau penche, et au bout d'un moment, Chetino sort du déni, il ouvre les yeux, se rend compte qu'il n'y a plus d'issue possible, il n'y a plus d'espoir, pas de lumière au bout du tunnel, le bateau est condamné, c'est terrible. Seulement à ce moment-là, il va prendre son micro et faire sa deuxième annonce. Chers passagers, nous avons un léger problème, il sera bientôt réglé. Par mesure de précaution, pourriez-vous s'il vous plaît vous diriger vers les canots de sauvetage? Le mec est complètement à contre-temps et comme tous les passagers sont déjà dans les radeaux, on commence à les mettre à l'eau. Il est 23h, ils sont dans le noir total, plein mois de janvier, l'air est glacial et les bateaux qui sont arrivés en bas sont à la dérive avec un immeuble de 13 étages qui leur tombe dessus. Le paquebot qui leur promettait une croisière de rêve prend l'eau, ils ont peur, ils ont froid, ils savent que ça va encore être très long. Les 4 premiers étages du bateau sont sous l'eau, Chetino et Sega ont abandonner la passerelle de pilotage, l'inclinaison s'accélère, les radeaux continuent d'être mis à l'eau. À un moment, le bateau prend tellement d'angle qu'on n'évacue plus du côté où il penche, ça devient trop dangereux. Et entre-temps, la Guardia Costiera a pris l'initiative de débarquer sans attendre de SOS. Une panne d'électricité, ça arrive, un bateau à moitié sous l'eau, c'est déjà moins courant, ils arrivent sur place et commencent à récupérer les passagers. Et les habitants de l'île vont mettre en place une énorme chaîne de solidarité. Et ils accueillent les naufragés chez eux. La nature humaine, c'est être pleine de bonté quand elle veut. Le bateau finit par se poser complètement, mais il ne s'est pas redressé. Au contraire, tout le côté droit est sous l'eau. Les opérations de secours touchent au but et le soleil qui se lève va dévoiler les conséquences des erreurs de la nuit. Le bateau est couché sur la droite avec son énorme trou sur la coque. Cette fameuse brèche est maintenant complètement hors de l'eau. Et cette nuit-là, il est passé de navire à monument, une sorte de mémorial de l'erreur humaine. Conséquence de l'erreur, 27 passagers et 5 membres d'équipage sont morts noyés, asphyxiés, dans un compartiment qui s'est rempli d'eau. Et pendant ce temps-là, Chetino n'a pas attendu que tout le monde soit évacué pour sauver sa peau. En fait, Chetino avoue qu'il est parti avant la fin, mais il dit que c'est pas de sa faute. Il a raconté à tout le monde qu'il avait coordonné les secours pendant l'événement, mais pas de bol, pas de bol, il a trébuché et glissé dans un canot de sauvetage. Franchement, Oscar du mytho le moins crédible. D'autant moins crédible qu'une vidéo est sortie par la suite et on y voit un type qui correspond à la description de Chetino attendre calmement son tour pour monter dans une embarcation de sauvetage. Quand il s'est retrouvé en sécurité en bas, il s'est fait rouster par le responsable des gardes-côtes. Le commandant Di Falco lui a ordonné de remonter à bord et de faire son devoir. Cet ordre est d'ailleurs devenu une punchline d'anthologie. Va a bordo cazzo. Remonte à bord, tête de con. Quand on lui a posé la question sur la dame qui n'avait pas son ticket, il a juste assuré qu'elle n'avait pas du tout affecté le désastre. Et il a ajouté, qui ne pouvait pas être tenu seul responsable des 32 décès. Fiettino va décharger sa responsabilité en affirmant que Costa Croisière lui a demandé de s'approcher le plus près possible de l'île. Et ça, ça va être confirmé par la police italienne suite à l'analyse des communications radio. Fiettino sera accusé d'homicide involontaire, de mise en danger du navire et d'abandon des passagers, et l'homme le plus détesté d'Italie sera condamné à 16 ans de prison qu'il est en train de purger actuellement. Et comme vous aimez les histoires de naufrage, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle raconte comment Vladimir Poutine a laissé mourir 83 de ses hommes à bord du Kursk et comment on est allé récupérer ce sous-marin nucléaire 100 mètres au fond de l'océan.